Je n'ai pas de montre. Et donc à midi, vous faites signe. Alors peut-être que c'est trop pro pour vous demander, mais que faites-vous le 8 septembre? Le 8 septembre, c'est un lundi, donc il y a peut-être pas mal qui devront travailler. Mais sinon, c'est le lundi avant le Jeûne Genevois. Pour ceux qui sont de passage, le Jeûne Genevois, c'est un peu un week-end de rêve pour les Genevois. Vous jeûnez, apparemment. Enfin, je viens de Bonneville, je ne sais pas. Mais apparemment, vous jeûnez pendant le Jeûne Genevois. Donc, le 8 septembre, c'est possible que vous preniez toute votre semaine de libre. Ah, merci. Alors, on ne se connaît pas, mais si jamais vous n'avez pas décidé encore ce que vous faites le 8 septembre, je vous propose qu'on parte tous à la chasse. Vous n'attendez pas ça, en fait, peut-être. Nous allons partir tous à la chasse. Le 8 septembre, c'est l'ouverture officielle, donc à Bonneville, pour la chasse aux cerfs. Chasse aux cerfs, bon. Je suis désolé pour vous qui sont un peu contre la chasse, mais je vous invite quand même à faire partie de ce groupe. Nous, on peut partir tous ensemble à la chasse aux cerfs. Vous savez que la viande de gibier, de gros gibier, c'est super bon. Quand on a des mois assez rudes en hiver à Genève, ou des mois d'été, cette année, assez rudes, la viande très riche de grand gibier, c'est très très bon à manger. On peut également faire des hamburgers, des choses intéressantes avec cette viande. Mais donc, on va partir à la chasse, parce qu'on a cette opportunité le 8 septembre. Mais disons que ça nous intéresse et il faut qu'on se prépare. Il faut qu'on se prépare pour aller à la chasse. On ne peut pas juste partir comme ça. Pour réussir à notre chasse, nous avons besoin de faire face à un obstacle de taille. Un obstacle de taille et entre nous et notre grand gibier, notre cerf, dans ce cas. C'est quoi ce grand obstacle? Le cerf, en France en tout cas, a très peur des hommes et des femmes que nous sommes. Le cerf, il a peur de nous. Et donc, c'est un obstacle pour nous parce que justement, on essaie de nous approcher du cerf pour le chasser. Et ce cerf, il va essayer de fuir. Pourquoi? Parce qu'il a peur. Il a peur de nous. Et bien, pour réussir notre chasse, nous avons besoin de faire face à cet obstacle et même de surpasser cet obstacle, cette peur. Il faut qu'on règle, il faut qu'on gère cette peur. Et donc, l'homme, il a chassé depuis bien beaucoup d'années. Et donc, j'ai fait quelques recherches pour notre partie de chasse le 8 septembre. Et je vous présente trois stratégies qu'on peut employer pour réussir à notre chasse, pour gérer cette peur de l'animal. D'abord, on a ce qu'on appelle la chasse à l'approche. Est-ce qu'il y a des chasseurs ici? Peut-être pas. Non. Vous êtes comme moi. Alors, chasse à l'approche, vous dites, oui, d'accord, oui, chasse à l'approche. Enfin, je peux vous dire ce que je veux. Vous ne savez pas. Donc, il y a chasse à l'approche, ce qui est très, très simple, c'est ce qu'on pense. Hein. On s'approche de l'animal, on s'approche du cerf. Le cerf, dans ce cas, il est plutôt immobile. Il mange dans ses lieux de restauration. Il va être là à manger ses pommes et ses poires, je ne sais quoi. Et nous sommes là avec notre arme et notre groupe. On s'approche d'eux avec notre arme jusqu'à ce qu'on peut tirer dessus. Alors, pour gérer la question de peur, parce qu'il faut quand même gérer la question de peur, on ne peut pas juste s'approcher d'eux sans qu'ils aient peur de nous. On va faire quoi? On va être inaperçu, on va être inaudible, donc il ne nous entend pas, et on va être ils ne vont pas nous sentir. Et donc, ça veut dire que monsieur et madame, enfin monsieur surtout, on va se doucher la veille de cette chasse, et madame, vous n'allez pas porter votre parfum le plus fort. Portez plutôt un parfum qui est plus rustique, peut-être. Ensuite, on va éteindre les téléphones portables. On va s'habiller pas en costard cravate, on va s'habiller en brosse ou arbre ou quelque chose comme ça qui ressemble, du camouflage, hein, si vous voulez. Et ça, tout ça, ça va diminuer la peur de l'animal. Il ne va pas nous voir, il ne va pas nous entendre, il ne va pas nous sentir. Et on arrive à s'approcher d'eux. Ça, c'est donc la chasse à l'approche. On est à pied, on s'approche du gibier. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est la chasse à l'afflux. Ou l'affût, pardon. La chasse à l'approche, c'est la chasse à l'approche à l'envers. C'est, c'est nous qui sommes immobiles et c'est l'animal qui s'approche de nous. Donc pour les flemmards que nous sommes, c'est plus intéressant parce qu'on peut faire des mails, on peut travailler autre chose. Et puis c'est le gibier qui vient nous voir. On est posté, donc sur en haut d'un arbre par exemple, et on attend. Et si on est très sage, on va mettre peut-être des pommes par terre. Ou il y a des façons de téléphoner au cerf en utilisant peut-être des cornes ou des choses comme ça. On peut téléphoner au cerf, puis eux ils viennent vers nous. Et comme ça, on est donc sur l'arbre. Ils ne nous voient pas parce qu'on est par-dessus de leur champ de vision. Et on arrive à surpasser encore cet élément de peur. Ils ne nous voient pas. Donc ils viennent à nous. Ça, c'est le chasse à affût. La dernière méthode qu'on peut utiliser pour chasser les cerfs, c'est ce qu'on appelle la battue. Est-ce que vous connaissez la battue? La chasse à la battue, c'est très simple. Et comme on part en groupe, donc le 8 septembre, hein, si on veut, je vous propose qu'on adapte cette stratégie. C'est vraiment adapté à la chasse en groupe. Pendant la battue, on se répartit en deux groupes. Ici, on a des traqueurs et ici, on a les postés, les traqueurs et les postés. Si vous êtes traqueur, vous pouvez amener votre chien. Okay, vous portez le parfum très très fort et vous avez votre téléphone, vous mettez sur une sonnerie qui pète vraiment très très fort. Et nous, donc les postés, on va trouver une ligne où on va se poster et vous, les traqueurs, vous allez mettre de l'autre côté de l'animal. L'animal est entre nous et vous faites justement peur à l'animal. Vous voyez la différence? Vous faites peur à l'animal. L'animal, il vient vers nous, les postés, et nous, on peut tirer dessus. Alors, ce qui est intéressant, pourquoi je vous parle de chasse et tout ça, c'est parce que l'obstacle principal à la chasse aux cerfs, c'est la peur. L'animal a peur de nous, c'est un instinct que Dieu lui a donné pour la survie, en fait. Il a peur de nous et ça sauve la vie. Mais dans l'instance de la battue, lors de la battue, cette peur travaille contre lui. Cette peur le trahit. Cette peur le détruit. Normalement, sa peur le protège. Mais pendant la battue, sa peur le détruit. Mon message pour vous ce matin est ne laissez pas la peur vous détruire. Ne laissez pas la peur vous détruire. De quoi vous avez peur? Moi, j'ai choisi de parler de la peur parce que j'ai peur de voir un groupe, de parler en public. Je me disais, ah, ça tombe bien, je vais faire face à cette peur. De quoi vous avez peur? Il y a beaucoup de guerres en ce moment. Les choses ne sont pas très stables, ce n'est pas très sécurisant pour nous les parents. Qu'est-ce qui va arriver à nos enfants? Est-ce que vous avez peur de l'échec? Peut-être que vous avez peur de rester seul si vous êtes toujours seul. Peut-être que vous avez peur de perdre justement votre bien-aimé, votre conjoint, vos enfants. Peut-être que vous avez peur, comme moi, de se retrouver sans boulot, sans argent, sans abri. Peut-être encore comme moi, vous avez peur des regards des autres, ce qu'ils vont dire de vous. Peut-être que vous avez peur de la maladie, d'être handicapé, d'être gêné pour se déplacer. Peut-être que vous avez peur de la mort. Peut-être que vous avez encore peur du monde spirituel, des démons, des forces du mal. Je pars du principe que dans cette liste ou dans une autre, on peut tous trouver quelque chose qui nous fait peur. Et je vous rappelle ce matin que ces peurs nous influencent. Bon, je pense qu'on sait que ces peurs nous influencent. On décide que c'est trop dur, trop risqué de marcher par la foi, de faire un pas de foi pour certaines choses. Prendre des années à l'institut biblique ou de partir servir le Seigneur. C'est un pas de foi. Ce que John Glass fait, moi je le fais aussi en tant que missionnaire, c'est un pas de foi. On ne sait pas d'où vient l'argent le mois prochain. C'est très risqué. Ça nous fait peur. Et parfois, cette peur nous saisit, nous manipule. Et du coup, on ne fait pas ce que Dieu il veut pour nous. En plus, je vous propose que nos peurs peuvent nous trahir, comme dans la battue, comme un cerf qui est piégé. Notre peur peut nous faire piéger aussi. Notre peur peut nous éloigner de Jésus et carrément détruire notre vie et notre liberté en lui. Si on le laisse, notre peur peut nous rendre esclaves. Alors, pour cette prédication, pour ce message, on va regarder d'abord un verset clé en Romains, Romains 8, qui nous aide à comprendre d'où vient la peur et d'où elle ne vient pas. Et ensuite, on va regarder la vie de Jésus pour voir comment notre Seigneur et notre modèle a géré la peur et qu'est-ce qu'il a dit par rapport aux peurs qu'il voyait dans ses disciples et dans les autres. Donc Romains 8, 15, je vais commencer avec ce verset. Bon, Romains chapitre 8, vous avez peut-être déjà passé des mois et des mois, c'est un chapitre très, très dense, mais ce qui nous intéresse ce matin, c'est qu'est-ce que Paul y dit par rapport à la peur. Et dans ce texte, il parle donc à propos de la vie dans l'esprit. Il fait la différence entre la vie dans l'esprit et la vie dans la chair. Regardez ce que dit Paul par rapport à la peur et l'esprit qui est donné à ceux qui sont en Jésus. Romains 8, verset 15. Je vous lis dans la version Semeur. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu. Car c'est par cet esprit que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. Bon, je vais rester très simple. On va juste lire ce verset-là, parce qu'on voit quelque chose déjà d'essentiel. Qu'est-ce que vous avez vu que Paul il dit à propos de la crainte, la peur? En Jésus, nous n'avons pas reçu un esprit qui nous rend esclaves, qui nous amène à la peur. Par l'Esprit Saint, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Et comme des enfants, nous sommes libres, nous ne sommes plus des esclaves, nous sommes des enfants des esclaves, ils vivent sous le régime de la crainte, la peur. Qu'est-ce qui va m'arriver? Je n'ai pas de sécurité, je n'ai pas de droit. Si vous voyez des esclaves aujourd'hui, parce qu'il y en a encore beaucoup d'esclaves dans notre monde, ils vivent sous une crainte, même de leur vie, ça les transforme, ils ne sont même plus humains, ils se sentent comme des objets. Là, c'est la peur. Nous ne sommes plus des esclaves, nous sommes des enfants, et qu'est-ce... Comment vivent des enfants? Comment vit mon fils? Bon, il s'ennuie, mais il vit dans la confiance que je l'aime et que je serai toujours là pour lui. Il vit sur une base de grâce et d'amour. Et là, pour lui, c'est une vraie liberté. Il se sent libre de faire comme il veut, de s'ennuyer pendant ma prédication. Mais je l'aime, je vais continuer à l'aimer parce que c'est mon fils. Et là, il a une sécurité, il a une base solide qui est donc dans l'amour. En Jésus-Christ, donc, nous avons reçu un esprit de liberté. Nous sommes libérés des puissances qui autrefois régnaient sur nous. C'est peut-être notre passé, notre culture, nos croyances d'origine, notre culpabilité, nos passions, nos désirs, nos obsessions, des démons peut-être, des maladies, peut-être même la mort. On peut vivre sous la crainte de la mort. Ça peut nous maîtriser, ça peut nous manipuler. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne sommes plus des esclaves. Face à ces puissances qui régnaient sur nous, on peut dire maintenant, aujourd'hui, au nom de Jésus, stop, non. Jésus m'a libéré. Je suis enfant de Dieu. Et dans son esprit, j'ai reçu de la puissance divine sur tout ce qui me faisait peur d'autrefois, qui essaie de me contrôler. Je suis libre. Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que vous vivez cela tous les jours? La peur ne vient pas de Dieu. La peur ne vient pas de Dieu. La peur ne vient pas de son esprit qui nous anime. Ce qui vient de son esprit, c'est la liberté et la puissance. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la base. C'est la vérité à propos de Dieu, c'est la vérité à propos de notre vie en Dieu, avec lui. Et cette vérité ne changera pas. Elle est la même quand on parle de la maladie. Elle est la même quand on parle des forces du mal. C'est la même quand on parle des échecs. C'est la même quand on parle de la mort. L'esprit qui est en nous est plus fort. La peur de ces choses ne vient pas de Dieu et son esprit. Voilà. Avec le temps qui nous reste, j'aimerais regarder quelques épisodes en Luc, chapitre 8, où Jésus nous montre ce que c'est de vivre cette liberté, cette puissance, comme un enfant de Dieu, comme un enfant de Dieu, face à des situations qui lui font peur, ou qui pourraient lui faire peur. Jésus est notre maître, notre exemple et notre modèle. Je vous propose ce matin que, quand on regarde la vie de Jésus, on regarde une voie qui propose pour nous de le suivre. Jésus est là comme notre exemple et dit « Suis-moi, suis-moi dans cette voie, suis-moi de comment je vis dans ces situations qui font peur. » Voilà. Donc je vous propose de commencer en Luc 8, verset 22. Luc 8, verset 22. Jésus et ses disciples sont dans un bateau sur le lac de Galilée et il y a une tempête qui leur fait peur. Peut-être vous connaissez cette histoire. Mes enfants, ils aiment bien. Regardez les réactions des disciples et puis celle de Jésus. Donc je vous lis verset 22, pardon, à verset 25. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples et leur dit « Passons de l'autre côté du lac. » Ils gagnèrent le large. Pendant la traversée, Jésus s'assoupit. Soudain, un vent violent se leva sur le lac. L'eau envahit la barque. La situation devenait périlleuse. Les disciples s'approchèrent de Jésus et le réveillèrent en criant. Je ne vais pas crier, mais « Maître, maître, nous sommes perdus !» Il se réveilla et parla sévèrement au vent et aux flots tumultueux. Ils s'apaisèrent et le calme se fit. Alors il dit à ses disciples « Où est donc votre foi ?» Quant à eux, ils étaient saisis de crainte et d'étonnement. Ils se disaient les uns aux autres « Qui est donc cet homme ?» Voyez, il commande même au vent et aux vagues. Et il s'en fait obéir. Voilà donc, Jésus et ses disciples sont dans une barque sur le lac de Galilée. Jésus est fatigué et il fait une sieste. Il s'endort, il paraît, le moment où la tempête arrive. Il y a quelques disciples qui ont beaucoup d'expérience dans des bateaux. Ce sont des pêcheurs, ils sont forts. Mais le vent est vraiment très, très violent. Le bateau prend l'eau et les disciples, ils ont peur. Ils désespèrent. Ça, c'est la peur. C'est lourd. Ils ont peur pour leur vie. Et donc, ils réveillent Jésus en lui disant, « Maître, maître, nous sommes perdus !» On remarque que Jésus, bon, il se réveille, hein, mais il n'a pas peur. Il n'a pas peur de la situation. Jésus se réveille et il fait quoi? Il apaise la tempête. Il apaise tout simplement la tempête. Il s'adresse au vent et aux vagues comme un gentil chien. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Oh, oh, stop !» Calme-toi, calme-toi. Oh, gentil chien. Et qu'est-ce que le vent y fait? Qu'est-ce que les vagues font? Ils obéissent. Comme à un maître. Le maître, il est là. En chair et en os, il leur parle. Et les vagues, le vent, ils obéissent. Et puis Jésus, il pose une question à ses disciples. Où est donc votre foi? Mais ce n'est pas vraiment une question. C'est une reproche plutôt. Jésus sait que la tempête fait peur, le vent, les flots tumultueux, naturellement ça fait peur. Et Jésus observe la peur de ses disciples, il les voit, il voit le pouvoir, l'influence de la peur sur eux. Ils sont complètement terrassés. Maintenant Jésus, il est leur rabbin, il est leur maître. Il veut leur apprendre quelque chose d'essentiel par rapport à ce monde, par rapport à lui-même, par rapport à leur peur. Il veut leur préparer pour l'avenir, pour des occasions qui font encore plus peur qu'une tempête en pleine mer. c'est un moment très important dans la vie de ses disciples. Jésus leur demande « Où est votre foi ?» Autrement dit, entre les lignes, hein, on peut imaginer, il dit « Je sais en quoi vous placez votre foi. Votre foi est en vous-même, votre confiance est dans vos connaissances, dans votre expérience, dans vos capacités, dans vos solutions. C'est là, là, et votre foi. Votre foi est en vous-même. » Et vous voyez, ça ne marche pas. Ça ne tourne pas, votre foi. Votre peur s'installe. Vous êtes mourant de peur. Et cette peur est en train de vous détruire, vous maîtriser, vous manipuler. Donc Jésus reproche la peur de ses disciples. Pourquoi Jésus leur reproche d'avoir peur d'une tempête? La peur d'une tempête, c'est quelque chose, moi, je juge normal. C'est une peur de quelqu'un de normal, sage, expérimenté, posé. Vous voyez, sur le lac, il y a une tempête qui arrive. Non, monsieur, merci. C'est tout à fait normal. Ce n'est pas peureux comme réponse. Pourquoi reprocher cette peur? C'est parce que cette peur-là a pris l'autorité sur les disciples. Donc Jésus leur montre que c'est lui qui a l'autorité. Ne vous trompez pas. Ne vous rendez pas à la peur du vent et des vagues. Qui sont-ils? Quel pouvoir ont-ils sur vous? C'est moi qui tiens le pouvoir. Jésus montre à ses disciples ce jour-là qu'il a l'autorité sur la création. L'Esprit qui est en Jésus a l'autorité sur la création. Et les disciples étaient saisis d'étonnement. Ils ont parlé autour d'eux, ils ont écrit cette histoire dans les évangiles, cette histoire nous est racontée à travers des milliers d'années. Pourquoi? Pour nous apprendre la même chose. Jésus a l'autorité sur la création. Et ça doit changer quelque chose de fondamental pour nous qui le suivons par rapport à notre peur, par rapport à quelque chose qui peut prendre place en nous, s'installer, régner sur nous. Revenons à notre verset Romains 8:15. La vérité biblique que nous avons vue tout à l'heure, en Jésus, nous avons reçu un esprit de liberté, de pouvoir. En Jésus, nous avons la liberté. En Jésus, nous avons la puissance. En Jésus, nous ne sommes pas terrassés par la peur de la tempête. Nous sommes libérés de cette peur. Et cette peur n'a aucune autorité sur nous. Nous ne sommes pas esclaves de cette peur. Celui qui est en nous est plus grand et beaucoup plus fort qu'une tempête. Lac. Nous sommes des enfants libres qui vivent avec confiance sur une base solide de l'amour. Vous voyez comment ça marche avec cette vérité biblique qui prend place, qui prend racine dans notre cœur, dans notre âme, et nous donne confiance de faire face à ces situations. Voilà, on va regarder rapidement maintenant le prochain épisode, versets 26 à 39. Jésus et ses disciples arrivent sur l'autre côté du lac. Ils rencontrent là un homme qui avait plusieurs démons en lui. Jésus a de la compassion pour lui, le libère de ses démons. Maintenant, j'aimerais qu'on regarde la réaction de son entourage. Dans Luc 8, à partir de verset 26. Donc, ils abordèrent dans la région de Gérasa, située en face de la Galilée. Au moment où Jésus mettait pied à terre, un homme de la ville qui avait plusieurs démons en lui vint à sa rencontre. Depuis longtemps déjà, il ne portait plus de vêtements et demeurait non dans une maison, mais au milieu des tombeaux. Quand il vit Jésus, il se jeta à ses pieds en criant de toutes ses forces. « Que veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Il parlait ainsi parce que Jésus commandait à l'esprit mauvais de sortir de cet homme. En effet, bien des fois, l'esprit s'était emparé de lui. On l'avait alors lié avec des chaînes et on lui avait mis les fers aux pieds pour le contenir. Mais il cassait tous ses liens et le démon l'entretenait dans des lieux déserts. L'entraînait dans les lieux déserts. Voilà. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?»« Légion, » répondit-il, « car une multitude de démons était entrée en lui. Ces démons supplièrent Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. » Or, près de là, un important troupeau de porcs était en train de paître sur la montagne. Les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces porcs. Il le leur permit. Les démons sortirent donc de l'homme et entrèrent dans les porcs. Aussitôt, le troupeau s'élança du haut de la pente et se précipita dans le lac où il se noya. Quand les gardiens du troupeau virent ce qui était arrivé, ils s'enfuirent et allèrent raconter la chose dans la ville et dans les fermes. Les gens vinrent se rendre compte de ce qui s'était passé. Ils arrivaient auprès de Jésus et trouvèrent assis à ses pieds l'homme dont les démons étaient sortis. Il était habillé et tout à fait saint d'esprit. Alors la crainte s'empara d'eux. Ceux qui avaient assisté à la scène leur rapportèrent comment cet homme qui était sous l'emprise des démons avait été délivré. Là-dessus, toute la population du territoire de Gérasénois, saisie d'une grande crainte, demanda à Jésus de partir chez eux. Il remonta donc dans la barque et repartit. On va s'arrêter là. Donc, Jésus et ses disciples arrivent à l'autre côté du lac, chez les Gérasénois. Et il délivre un homme qui est sous l'emprise de plusieurs démons. Et vous avez vu la réaction des gens qui l'entourent, les villageois, enfin les personnes qui l'entourent. C'est impressionnant, c'est bizarre, n'est-ce pas? L'homme avec des démons est un des leurs. C'est un frère, c'est un fils, c'est un voisin. Et il a horriblement souffert. Et son entourage a forcément partagé cette souffrance, ou en tout cas porté le poids de ses démons, de son problème. Et Jésus arrive, et dans son pouvoir, il fait quoi? Il enlève des démons. Et pour une raison qui lui appartient, il les laisse prendre résidence dans un troupeau de porcs qui ensuite se suicide dans le lac. Ensuite, l'homme, il s'habille, il se met assis au pied de Jésus, et c'est là où ses concitoyens le retrouvent. Et toute la population est saisie d'une grande crainte. Et ils disent à Jésus, non, on ne veut pas de ça ici, merci. S'il vous plaît, prenez votre barque et rentrez chez vous. Vous n'êtes pas les bienvenus. C'est impressionnant. C'est quoi cette peur qui règne sur eux? C'est évident qu'il y a une grande influence sur eux. Alors moi, je vous propose qu'un élément de réponse, c'est le fait que Jésus et ses disciples sont chez les Géraséniens, un peuple païen superstitieux. Hein, ce n'est pas Israël. Et quand Jésus fait sortir les démons, il montre son pouvoir dans ce milieu, à ce peuple. Et Jésus montre qu'il a une autorité sur le monde spirituel. L'esprit en Jésus est visiblement plus fort que les démons dans l'homme fou. Il ne peut pas dire le contraire. C'est peut-être trop dur pour les éleveurs de porcs, pour les simples gens de village. Leur vision du monde, leur Dieu, toutes leurs croyances sont remises en question. Ils se disent, qu'est-ce qui se passe? L'homme fou est devenu raisonnable. Tous nos porcs sont noyés dans le lac. Et il y a un prophète juif ici avec ses disciples qui sont chez nous. Ils agissent avec puissance et ils parlent avec l'autorité. Non. C'est trop dur. On ne veut pas de ça ici. Regardez comment Jésus a la puissance de libérer des gens qui sont sous une oppression spirituelle. Même un homme opprimé par des milliers de démons. Jésus a cette puissance. Mais une chose qui est aussi incroyable que la libération de cet homme, c'est le fait que ses concitoyens préfèrent rester dans l'esclavage. Ces concitoyens, ils préfèrent rester dans cet esclavage. Leur peur les trahit. Elle a une vraie puissance. Et ça les rend aveugles et esclaves. Ça les piège. Ça les détruit. Cette histoire, ça nous montre bien. La peur peut même repousser la vérité. La libération en Jésus. Les Géraséniens renvoient de chez eux non pas un petit prophète, un gars avec des bons enseignements. Les Géraséniens, ils renvoient de chez eux le grand libérateur de l'histoire humaine. Et c'est la peur qui les a entraînés. C'est la peur qui les a trompés. Alors, on va vite faire donc la dernière histoire dans le chapitre 8. à partir de verset 40, Jésus et ses disciples sont de retour en Galilée. Il y a une foule. Un homme demande à Jésus de venir chez lui pour guérir sa fille. Jésus le suit, mais en marchant, il y a une femme qui touche ses vêtements et elle est guérie. Jésus lui demande de se faire connaître pour le restaurer à la communauté. J'aimerais qu'on regarde encore la bataille avec la peur, donc chez cette femme. Plus tard, Jésus arrive à la maison où il y a la fille malade, et finalement, elle est morte en attendant l'arrivée de Jésus. Regardez encore la peur des gens et la réponse parlante de Jésus. Donc à partir de verset 40, je dis. À son retour en Galilée, Jésus fut accueilli par la foule, car tous l'attendaient. À ce moment survint un homme appelé Jairus. C'était le responsable de la synagogue. Il se jeta aux pieds de Jésus et le supplia de venir chez lui. Sa fille unique, âgée d'environ 12 ans, était en train de mourir. Jésus partit donc pour se rendre chez lui. Cependant, la foule se pressait autour de lui. Il y avait là une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien chez les médecins sans que personne n'ait pu la guérir. Elle s'approcha de Jésus par derrière et toucha la frange de son vêtement. Aussitôt, son hémorragie cessa. « Qui m'a touché ?» demandait Jésus. Comme tous s'en défendaient, Pierre lui dit « Voyons, maître, la foule t'entoure et te presse de tous côtés. » Mais il répondit « Non, quelqu'un m'a touché, j'ai senti qu'une force sortait de moi. » En voyant que son geste n'était pas passé inaperçu, la femme s'avança toute tremblante, se jetait aux pieds de Jésus et expliqua devant tout le monde pour quelle raison elle l'avait touché et comment elle avait été instantanément guérie. Jésus lui dit « Ma fille, parce que tu as cru en moi, tu as été guérie, va en paix. » Il parlait encore quand quelqu'un arriva de chez le responsable de la synagogue et lui dit « ta fille vient de mourir, n'importe plus le maître. » En entendant cela, Jésus dit à Jairus, « ne crains pas, crois seulement, ta fille guérira. » Une fois arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, sauf à Pierre, Jean et Jacques, ainsi qu'au père de la mère de l'enfant. Ce n'était partout que pleurs et lamentations. Jésus dit, « ne pleurez pas, elle n'est pas morte, elle est seulement endormie. » Les gens se moquaient de lui, car ils savaient qu'elle était morte. Alors Jésus prit la main de la fille et dit d'une voix forte, « Mon enfant, lève-toi !» Elle revint à la vie et se mit aussitôt debout. Alors Jésus ordonna de lui donner à manger. Les parents de la jeune fille étaient stupéfaits, mais Jésus leur recommanda de dire à personne ce qui s'était passé. Donc, Jésus, il a une semaine super chargée. Super chargée. Après la tempête, le pays des Gérésiens, il n'a pas de jour de congé. Il reprend tout de suite le boulot. Il y a une foule. Il faut faire des ministères à ce foule. Donc on comprend maintenant pourquoi la tempête ne l'a pas réveillé, n'est-ce pas? Il est pressé, enfin il est super chargé. Donc Jésus, il se dirige vers la maison de Jairus. La foule l'entoure, l'empêche d'aller très vite, d'avancer. Et dans la foule, il y a une femme en plus qui souffre d'hémorragie depuis longtemps. Pendant 12 ans, elle saigne. Pendant 12 ans, elle est impropre dans sa société, elle est sale, elle est écartée de la société. Elle ne peut pas aller au temple, les gens qui connaissent son problème, ils croient, bon il ne lui dit pas, mais ils croient que Dieu l'a jugée. Elle est pécheuse, pécheresse. Ces gens-là, donc, elle évite. Et pour gérer son problème, elle dépense tout son argent. Ça vaut la peine. Elle se ruine, elle se retrouve seule. Mais elle vient à la rencontre de Jésus. Par la foi, elle touche les vêtements de Jésus. Elle croit à la puissance de Jésus pour guérir. Et miraculeusement, elle est guérie. Jésus demande, « Attends, qui m'a touché ?» Elle n'ose pas devant tout le monde, mais Jésus insiste. « Non, qui m'a touché ?» La femme voyait donc que Jésus n'allait pas laisser tomber l'affaire et elle a peur. Qu'est-ce qui le retient d'aller voir Jésus? C'est la peur. Finalement, elle vainque sa peur, elle vient vers Jésus, elle s'humilie devant lui et devant tout le monde. Tous les yeux qui sont sur elle, qui connaissent, ça c'est la femme impropre, la pécheresse. Et cette femme, elle se jette aux pieds de Jésus, le grand maître, ce grand prophète. Elle raconte le miracle de Jésus. Elle, impure, l'a touché, lui, le parfait. Et Jésus le restaure et à la communauté. Il appelle ma fille, ma fille. Il honore sa foi devant tout le monde. Votre foi vous a guéri. Et puis il l'envoie en paix. Et les 12 ans de cauchemar sont terminés. Elle est libérée, restaurée, guérie. Et tout ça, ça prend du temps. Et pendant ce temps, notre ami Jairus est pressé. Il regarde sa montre, il voit le temps qui passe, il voit la foule qui empêche Jésus d'aller vite. D'ailleurs, on connaît, on était pressé une fois dans la vie, je pense. On connaît l'empêchement de Jairus, cette anxiété. Il voit que le temps il passe. Il voit tout le temps que ça a pris avec cette femme qui était guérie. Il n'a pas de temps. Il a peur pour sa fille. Et puis, finalement, de loin, il aperçoit quelqu'un de sa maisonnée. Il dit, certainement un message. C'est peut-être pas bon. Et c'est pas bon. Sa fille est morte. Le temps est écoulé. Time is up. C'est fini. La mort a vaincu. Tout l'espoir est perdu. Et Jairus, il est saisi de peur. Bon, ce n'est pas dit dans le texte, mais on sait parce que Jésus dit quoi? Il voit Jairus, il entend la conversation, il voit le cœur, ce qui se passe au fond de Jairus. Et il dit à Jairus, avec son regard déterminé, réconfortant, « Ne crains pas, ne crains pas. Crois seulement, crois seulement. » Et Jésus, il va chez Jairus, il emmène sa fille à la vie, c'est miraculeux. Et Jésus, en Jésus, il y a une puissance qui dépasse celle du temps et de la mort. Incroyable. Alors la lutte contre la peur dans ce texte est un peu plus subtile. La femme a peur de la société et elle est très influencée par ce que les autres pourraient dire et faire. Et dans le contexte juif, dans le modèle juif de gérer donc la situation humaine, cette problématique de notre péché, de notre impureté, elle a très très peur face à tout ça, face à ces maladies qui lui met un défaut. Mais sa foi en Jésus et son humilité la libère. Jairus, lui, il a peur de la mort et le temps qui s'écoule trop vite. Il est paralysé par cette peur. Il perd l'espoir. Jésus lui dit de ne pas donner l'autorité à cette peur. Jésus lui dit, ne crains pas, crois seulement. Crois la puissance et la liberté qui me sont données. Crois que l'Esprit de Dieu a l'autorité sur le temps, sur la maladie, même sur la mort. Ça, c'est une bonne nouvelle. Voici de nouveau la vérité. En Jésus, nous sommes libérés de nos peurs. En Jésus, nous sommes libérés de nos peurs. En Jésus, nous recevons puissance sur nos peurs. Et tout cela par son Esprit qui nous a envoyés, qui fait de nous des enfants de Dieu, avec une base solide qui est la grâce et l'amour éternel du Dieu créateur. Il nous fait de nous ses fils et ses filles adoptives. Il suffit de regarder Jésus pour voir comment cette vérité se concrétise dans la vie de tous les jours. Jésus n'a jamais, jamais succombé face à la peur de la tempête, face aux démons, face au regard des autres, des hommes, des femmes, la condition humaine. Il ne s'est jamais donné la peur. Il n'a jamais eu peur, même face à des ennemis de taille, comme le temps et la mort. Rien n'a pris pouvoir sur lui. Jésus est libre face à l'influence et face à la puissance de toutes ces choses. Même, il nous montre qu'il a l'autorité sur ces choses. Il ne faut pas croire qu'un autre esprit nous a été donné que celui de Jésus, l'Esprit Saint. Nous avons reçu le même esprit. Dieu nous envoie son esprit. Et nous savons maintenant que dans cet esprit, nous sommes des enfants bien-aimés de Dieu. Maintenant, laissons cette vérité nous rendre vraiment libres, vraiment forts, au nom de Jésus. Comment est-ce qu'on peut être libre de la puissance de nos peurs? Comment échapper? Comment est-ce qu'on peut s'échapper à la battue? C'est une question d'attachement. C'est une question d'attachement. Jésus dit, si vous vous attachez à la parole, que je vous ai annoncé. Vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. C'est Jean 8, 31-32. C'est une question d'attachement. Est-ce que vous avez remarqué ce qui s'est passé pendant notre temps avec Jésus en Luc chapitre 8? On voyait Jésus parler, on voyait Jésus agir, et petit à petit on s'attachait à ses paroles. Petit à petit on s'attachait à sa puissance, on s'attachait à Jésus. Et Jésus est libre de l'emprise de la peur, et nous aussi, quand on est avec lui, face à la tempête, moi je n'avais pas peur. Vous avez une peur pour les disciples? Non, il y a Jésus, moi je n'ai pas peur. Il y a un homme qui a 6000 démons en lui, vous avez peur? Moi je n'ai pas eu peur. Il y avait Jésus, il a puissance, il agit avec force, il agit avec liberté. Face à la mort, face au défi du temps, le temps qui découle, est-ce que vous avez eu peur? Moi, je n'ai pas eu peur. Il y avait Jésus, en qui l'Esprit de Dieu habite et agit avec puissance, avec force, avec liberté. Non, je n'ai pas eu peur. Et quand on s'attache à ce Jésus-là, dans sa parole, comme il nous dit, quand on s'attache à ces paroles, à cet personnage-là, ce Jésus-là, nous sommes rendus libres et nous sommes rendus forts face à nos peurs. Attachons-nous à ce qu'on a vu ce matin. Attachons-nous à cette vérité-là, que nous puissions prendre résidence, qu'on puisse demeurer ici, dans ces pages, dans la vie de Jésus, comment il nous montre, comment il vit avec cet esprit qui vient de Dieu, qui l'anime, qui le fortifie, qui le rend fort et libre. Voilà, qu'on puisse vivre, demeurer dans cette parole, dans cette personne. Que ce soit pour nous un point de départ et non pas un point de détour. Et puis la vérité que nous avons vue ici deviendra, Jésus deviendra notre liberté, notre puissance. Je vous donne pour terminer deux pistes pour avancer dans notre attachement à Jésus, pour vaincre notre peur. D'abord, l'attachement à Jésus est un défi commun. Vous êtes d'accord? Nous qui plaçons notre confiance en Jésus et qui suivons, nous avons tous ce défi devant nous de nous attacher plus davantage à Jésus. Donc, partageons ce défi, partageons ce parcours, attachons-nous ensemble à Jésus, à ses paroles. Est-ce que vous avez une peur qui a l'autorité sur vous, qui a une emprise sur vous, qui vous rend esclave, qui vous manipule? Est-ce que vous avez partagé cette peur avec un frère ou une sœur en Christ avec qui vous avez confiance? Un frère ou une sœur qui prie pour vous, qui vous épaule, qui vous aide? Est-ce que vous avez quelqu'un comme ça dans votre vie? Ou est-ce que vous êtes tout seul face aux traqueurs, face aux postés, face à leurs chiens, face à nos peurs? Est-ce que vous êtes tout seul? Si vous n'avez pas un frère ou une sœur de confiance, je vous propose que c'est le moment d'en trouver, parce que la battue a commencé. Vous pouvez aussi partager avec un des anciens ici. Je sais que ils prient pour vous, ils ne veulent pas que vous soyez esclaves de ces peurs-là, mais ils veulent que vous vivrez libérés de ces peurs et forts en Christ, dans son esprit. Voilà, cherchons ensemble la liberté en Jésus, attachons-nous ensemble à Jésus. Deuxièmement, pour s'attacher à quelque chose, il faut forcément investir du temps. Et malheureusement, nous sommes des gens pressés, moi je suis pressé. J'ai très peu de temps encore à investir. Je n'ai pas de temps libre. Comment est-ce que je vais changer des choses? Comment est-ce que je vais m'attacher encore plus à Jésus? Je n'arrive pas à lire le matin. Je n'arrive pas à demeurer dans cette parole depuis le matin. Cette parole devient plutôt un petit détour. Ce n'est pas forcément mon départ. Comment est-ce que je fais de ce départ quand je n'ai pas le temps? Je n'ai pas le temps de m'investir encore plus dans ce défi de m'attacher à Jésus. Eh bien, ça veut dire que faut qu'on fasse le tri, faut qu'on change des choses. Et donc, j'ai une question. Est-ce que vos activités, vos loisirs et vos divertissements nourrissent votre peur? Est-ce que vous vous attachez à des choses qui renforcent, qui augmentent votre esclavage? C'est une question difficile et souvent a besoin d'un œil extérieur qui regarde dans notre situation, qui appelle un chat un chat. D'où l'intérêt de nous attacher ensemble avec des frères et sœurs de confiance dans une vraie communion fraternelle. On s'aide à se grandir ensemble et dire « Oh, là, tu fais ça, je sais que tu aimes ça, c'est ta passion, c'est ton loisir préféré, mais ça t'enchaîne, ça te monte, ça te pousse encore dans la peur. Ça a une vraie emprise sur toi. » Il faut peut-être l'oublier, il faut peut-être changer quand même. Albert Einstein a dit que l'insensé est celui qui répète sans cesse la même chose et qui attend des résultats différents. Un insensé, c'est quelqu'un qui répète sans cesse la même chose, qui attend des résultats différents. Tony Robbins a dit à peu près la même chose. Si tu fais ce que tu as toujours fait, tu auras ce que tu as toujours eu. Si dans la vie de tous les jours, on ne change rien pour nous séparer de ce qui nourrit, encourage notre peur, on sera toujours sous son emprise. Si on ne change rien pour nous attacher davantage à Jésus, à ses paroles, on ne goûtera pas pleinement de la liberté qui nous est offerte en lui. À quoi nous attachons-nous? À quelle vérité? À quel esprit? Est-ce un esprit qui nous amène à la crainte? Ou est-ce un esprit de liberté, de confiance, de pouvoir? Est-ce qu'on peut décider aujourd'hui de chercher l'esprit de Jésus? De nous y attacher avec toute notre force, avec le temps qui nous est donné sur cette terre, dans nos activités, avec le soutien des frères et sœurs de confiance dans l'Église. Je retourne à la chasse pour conclure. Si les cerfs savaient qu'ils étaient dans une battue, d'accord, ils sont là, dans une battue, ils disent « Ah bah tiens, on dirait une battue ». Si les cerfs savaient qu'ils étaient dans une battue, ils seraient peut-être capables d'y échapper, ils se disent « Ah non, ça finit mal quand même les battues pour moi. Moi, je vais faire quoi? Je vais m'échapper. Je vais dire non, ils viennent de là. Donc ils vont essayer de s'échapper. En tout cas, ils ont raison d'essayer. Si on voulait que les cerfs s'échappent, on se dit non, vous êtes dans un battu, il faut vous échapper à cette battue. Nous savons la vérité en ce qui concerne notre peur. Et nous connaissons la puissance et la liberté de l'Esprit de Dieu. Nous connaissons cette vérité. Ces choses sûres, solides, qui durent à jamais, qui fait partie de notre être, notre identité. Qu'est-ce qui nous empêche encore, au moins d'essayer d'échapper à notre esclavage, à la peur? À prendre cette liberté pour nous, à nous attacher pleinement à Christ, et à notre identité en lui. Est-ce qu'on peut au moins condamner notre peur au nom de Jésus dans son autorité? Les guerres, cette peur-là, la peur de se retrouver seul pour toujours, de ne pas avoir une vie aboutie, cette peur-là, ça ne peut pas venir de l'esprit que Dieu m'a donné. Donc ça vient d'où, cette peur? Ça vient d'où, ce ressenti qui me manipule, qui me rend esclave, qui me pousse à faire des choses, ne pas faire des choses que je dois faire, qui me pousse à ne pas être satisfait en Jésus? D'où vient cette idée? D'où vient cette peur? D'où vient ce sentiment si ça ne vient pas de Dieu? Et si ça ne vient pas de Dieu, si ça vient de moi, si ça vient d'un autre esprit, je le condamne. Arrête de m'embêter. Arrête ta manipulation, arrête de me prendre l'autorité sur moi. Tu n'as pas l'autorité, ma vie est suffisamment compliquée déjà, je n'ai pas besoin de vous. Je refuse de te donner la priorité, je te refuse de te donner une place pour me gérer, pour prendre une emprise sur moi, pour être ton esclave. Moi, non, non, je refuse. Je m'attache à Jésus. Je m'implante, je demeure dans sa parole. Je vois comment lui, il a géré la peur. Je vois la puissance qui est en lui. Je vois la liberté qu'en lui. Et je prends ça pour moi parce que j'ai son esprit qui est en lui. Ça m'anime, ça m'aide à sortir de toutes ces anciennes chaînes qui sont là, qui essaient de me faire tomber, de me détruire. Non, je m'attache à Jésus. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier pour ton esprit qui est pour nous puissance et liberté. Parce que par ton esprit, nous sommes tes enfants, tes fils et tes filles qui disent Abba, Père, avec confiance, basée sur une base solide de grâce et d'amour. Et nous voulons vivre pleinement dans la conviction que tu nous donnes par ton esprit, que nous sommes des enfants libérés de ces choses qui nous enchaînent, qui nous font peur, qui nous manipulent, qui nous éloignent de toi. Nous voulons nous attacher à toi. Aide-nous dans cette église, dans d'autres églises, là d'où on vient, de chercher des frères et sœurs de confiance et leur donner ces peurs d'avancer ensemble, que tu agisses dans ces relations, tu nous aides à grandir ensemble en toi. Et que tu nous aides aussi, Seigneur, à voir, appeler un chat, voir ce qui nous fait peur et dire non, stop, je refuse. Donne-nous cette puissance, donne-nous cette sensibilité qui vient de toi, qu'on puisse agir comme toi, te prendre comme modèle. Et voir notre base en toi. Pour la gloire de ton nom, dans cette église, dans nos vies, dans tout ce que tu nous donnes de vivre en toi, au nom de Jésus. Amen.